Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est l'un des thèmes récurrents des manifestations hebdomadaires des Gilets jaunes en France depuis 2 mois et demi. Les médias et les journalistes sont honnis des manifestants, voire attaqués physiquement, contraints de travailler sous protection parfois, leurs journaux parfois empêchés de paraître et les sièges des entreprises de presse deviennent des lieux de manifestation. Mais cette défiance dépasse à l'évidence le simple cadre des manifestations. Elle est croissante, documentée, scrutée depuis des années par des enquêtes régulières et amène les rédactions à s'interroger et à se poser la question du jour. Les journalistes et les médias méritent-ils la défiance qui les frappe ? Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Samuel Bourron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en sociologie à l'Université de Paris-Dauphine, membre de l'IRISO, c'est l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales, et auteur de l'institutionnalisation paradoxale des écoles de journalisme dans la revue Savoir Agir, le numéro 46. Et Alexis Lévrier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien de la presse et des médias, maître de conférence à l'Université de Reims, chercheur associé au CELSA, c'est l'École des hautes études en sciences de l'information et de la communication, et auteur de Le Contact et la distance, le journalisme politique au risque de la connivence. C'est aux éditions Les Petits Matins. La défiance envers les journalistes et les médias, elle se renforce selon toutes les études, le dernier baromètre de la Croix, et on va en reparler bien sûr, mais historiquement, en fait, elle existe depuis qu'il y a des journaux et des journalistes, Alexis Lévrier.
Oui, ça existe depuis le XVIIe siècle. Moi, je suis d'abord un spécialiste de la presse d'Ancien Régime. C'est sur ce domaine que j'ai travaillé en priorité. Et dès l'apparition de la presse, donc dès le début du XVIIe siècle, on a les premières critiques contre le journalisme avec une étonnante continuité historique, c'est-à-dire que d'emblée, ce sont des lecteurs qui trouvent que les journalistes ne sont pas légitimes pour produire de l'information et qui se rêvent eux-mêmes en journalistes. C'est-à-dire qu'il y a une concurrence depuis l'avènement de la presse entre le lecteur de journaux et le journaliste lui-même et cette tentation du lecteur de devenir lui-même journaliste. Et je pense que dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a cette même crise de légitimité de la presse. C'est-à-dire que les utilisateurs des groupes Facebook des Gilets jaunes estiment qu'ils ont le même droit qu'un journaliste à produire de l'information et qu'ils sont tout aussi légitimes que les journalistes eux-mêmes.
Oui, les réseaux sociaux permettent de s'exprimer très librement. Est-ce que ça fait de chacun un journaliste, Samuel Bourron, vous avez un avis là-dessus ?
Oui, non. Effectivement, techniquement, tout le monde peut s'exprimer sur les réseaux sociaux. Tout le monde peut mettre des vidéos, exprimer son opinion. Après, le journalisme est une profession parce qu'il y a quand même une déontologie, il y a un savoir-faire.
Des techniques de travail.
Voilà, vérifier l'information. Ce qui fait que c'est difficile de tout mettre sur le même plan et les recherches qui sont menées sur justement cette explosion en fait des opinions voilà très contrastées sur les réseaux sociaux montre que en fait même sur les réseaux sociaux ceux qui sont le plus écoutés ceux qui parviennent davantage à diffuser leur opinion en fait ce sont des personnes qui ont du capital culturel qui ont un peu de pouvoir on pèse pas tous sur les de la même façon sur les réseaux sociaux.
Alors justement, qu'est-ce qu'on reproche principalement aux journalistes? La soumission et la proximité avec le pouvoir, qu'il soit économique ou politique, Alexis Lévrier?
Oui, dans le baromètre de la Croix, c'est évident, puisqu'il y a ce chiffre qui était déjà très haut, on approche des 70% pour les deux critiques dont vous parlez, c'est-à-dire proximité avec le pouvoir politique et proximité avec le pouvoir économique, et avec une réduction, malheureusement, qui est véhiculée par un certain nombre de médias alternatifs, comme le Monde diplomatique, par ACRIM, des associations comme celle-là, des gens comme Frédéric Lordon, qui sont très influents auprès des Gilets jaunes et qui ont ce discours qui est que parce qu'on appartient à un média privé ou parce qu'on est une chaîne publique ou une radio publique, on est forcément le porte-voix, on est la marionnette d'un oligarque ou d'un politicien. Et c'est ce discours-là qu'il faut combattre parce que évidemment il y a des cas où un oligarque va agir sur le contenu rédactionnel. Mais dans bien des cas, ça peut être un outil d'influence, c'est surtout un moyen peut-être d'éviter des enquêtes qui les concernent, ça c'est sûr. Mais Le Monde a bien prouvé l'été dernier que malgré la proximité entre Xavier Niel, qui possède Le Monde, et le couple Macron, il pouvait lancer l'affaire Benalla, qui a été été la première grande crise de ce quinquennat. Donc ça n'est pas parce qu'on appartient à un oligarque qu'on est forcément sa marionnette. Donc on a un rôle, certainement nous, universitaires, au-delà des journalistes eux-mêmes, de souligner cela et d'éviter cette confusion permanente. Il y a derrière ça un rêve en plus d'un journalisme. C'est ce qu'on voit beaucoup dans les études de Pierre Bourdieu et tous les tenants de ces études-là. C'est le rêve d'un journalisme pur, sans qui serait débarrassé de toute influence extérieure, où chacun s'exprimerait librement. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé.
L'objectivité n'existe pas. L'honnêteté, en revanche, peut éventuellement exister. Ce soupçon de soumission au pouvoir du patron ou de l'actionnaire, il est présent tout le temps, Samuel Bourron. C'est quelque chose que vous, dans vos études, vous retrouvez souvent ?
Oui, complètement. En fait, moi, j'ai plutôt mené des enquêtes sur la formation des journalistes. Et en fait, ce que j'observe, c'est que la pression qui pèse sur ces journalistes pour s'insérer sur le marché du travail, elle est énorme. Parce
qu'il n'y a pas beaucoup de travail et il y a beaucoup d'écoles de journalisme.
Mais complètement. Voilà. Et donc, en fait, si vous voulez vous insérer sur le marché du travail, à un moment donné, vous allez peut-être répondre à des commandes ou en tout cas faire ce qu'a priori on attend de vous, ça conduit à pas forcément sortir des clous et finalement à vous conformer.
Est-ce que, et là je m'adresse aux sociologues, est-ce que, et je le mets entre guillemets, est-ce que les journalistes, ça existe ? Le groupe, est-ce qu'il n'est pas beaucoup plus hétérogène que ce vocable le laisse supposer ? Quel rapport entre ce qu'on appelle dans les critiques des médias un éditocrate et un jeune pigiste précaire dont vous parlez qui sort de l'école ?
Vous avez complètement raison de souligner l'hétérogénéité de la profession, c'est énorme. Enfin, quand on dit les médias ou les journalistes, ça ne veut pas dire grand-chose. Entre celui qui sort d'une petite école, qui recrute après le baccalauréat, ou même qui ne sort pas d'une école de journalisme, et celui qui a fait l'ESJ Lille ou le CFJ, pour citer deux écoles qui sont très réputées, il y a un fossé social en termes à la fois d'origine sociale, de niveau d'études, et aussi des destins professionnels qu'il va y avoir après l'école. Voilà, il y a un monde et toute une stratification sociale en fait entre les journalistes.
Alexis Lévrier, cette façon de parler des journalistes en général, les médias, c'est une façon de les discréditer en fait.
Oui, c'est une façon de les réduire à un ensemble qui serait parfaitement homogène, alors qu'évidemment ça n'est pas le cas. Y a le mal aussi que font malheureusement les éditocrates dont vous avez parlé, c'est-à-dire un certain nombre d'éditorialistes, pas tous, mais certains qui sont très présents sur les médias, sur les chaînes d'infos, toujours un peu les mêmes, et dont certains, je pense à Christophe Barbier, revendiquent une coupure complète avec
ancien directeur de l'Express.
Voilà, et qui intervient beaucoup sur BFM notamment, et qui a eu des propos extrêmement clivants au début du mouvement des Gilets jaunes, en disant qu'il fallait finalement, la réponse à ce mouvement, c'était de supprimer la redevance, parce que c'était des gens, les gilets jaunes, qui n'avaient rien d'autre à faire de leur journée que regarder la télévision. C'était leur seule activité. Il y avait derrière ça un mépris de classe. Mais les propos de Christophe Barbier, d'ailleurs, qui ne reflètent pas tous les propos des éditorialistes, on a vu Jean-Michel Apathy, par exemple, faire considérablement évoluer son discours et maintenant évoquer les violences policières depuis début janvier, il en parle très régulièrement. Donc eux-mêmes ne sont pas un bloc parfaitement homogène, et surtout ils ne reflètent pas les 35 000 journalistes qui travaillent en France. Par contre, il y a un phénomène, je sais que Samuel Bourron a beaucoup travaillé là-dessus, qui est la formation des journalistes, et dans les grandes écoles, on sait qu'il y a 14 écoles reconnues, malheureusement il y a une fabrique de l'uniformité, une façon de les mettre dans le même moule, de leur donner les mêmes usages, parfois de leur apprendre à parler de la même manière, de les priver de leur accent quand ils viennent de région, et tout cela concourt à donner l'image d'un ensemble homogène, même si ça n'est pas tout à fait le cas. Je pense que les écoles de journalisme auraient à s'interroger sur la formation qu'elles dispensent et sur les effets d'uniformité qu'elles produisent.
Oui, j'ai été témoin de ça, hein, de gens qui avaient un accent et on leur a dit « tu ne feras jamais de radio ». L'endogamie, c'est le terme qu'on peut employer à Samuel Bourron. Ils sont de plus en plus les journalistes issus d'une seule et même classe sociale, les parents sont cadres, avec des parcours d'études très semblables. Vous avez beaucoup travaillé là-dessus.
Oui, tout à fait. En fait, parmi les journalistes diplômés d'une école, environ un diplômé sur deux a un parent cadre aux professions libérales. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par exemple, dans le cas du mouvement des Gilets jaunes, en fait vous avez très peu de journalistes qui ont dans leur entourage manifestants Gilets jaunes. Ça a quand même des effets très concrets qui est que on a des journalistes qui sont en partie déconnectés socialement ou spatialement des personnes dont ils parlent et notamment des classes populaires.
Alors, vous avez prononcé le mot spatialement, ça c'est aussi un reproche, mais c'est des chiffres, hein. Les journalistes sont-ils trop parisiens ? 60% des journalistes qui sont encartés, qui ont la carte de presse aujourd'hui, sont parisiens. Ils sortent pas suffisamment de leur rédaction. Il faudrait faire davantage de ce point de vue-là, Alexis Lévrier.
Ah, moi, j'en suis convaincu. Je viens d'une université de province. Hein, j'enseigne à Reims. Et je vois chaque année des étudiants qui souhaiteraient devenir journalistes et qui se l'interdisent. Il y a une forme d'autocensure parce que ça leur paraît tellement inaccessible. Et malheureusement, ça l'est souvent pour des étudiants qui viennent de province. Qui viennent de catégories populaires. Alors, il faut souligner qu'il y a une prise de conscience de cela. Je sais que le monde travaille beaucoup sur cette question-là, par exemple. Il y a des dispositifs comme la chance au concours, moi, dont je dis toujours le plus grand bien, parce que chaque année, grâce à la chance au concours, je peux placer des étudiants en école de journalisme, alors que jamais ça n'aurait été possible. C'est une prépa gratuite, accessible aux boursiers, et qui leur permet, dans les meilleures conditions, de préparer les écoles de journalisme. Je sais que le Bondy Blog aussi a une filière à l'ESJ de Lille, là, la prépa égalité des chances, qui permet, là encore, à des étudiants de banlieue, notamment, d'accéder à cette école qui est l'une des plus prestigieuses de France, si ce n'est la plus prestigieuse. Donc il y a une volonté, je crois qu'il y a une prise de conscience, mais entre la prise de conscience et la réalisation concrète, il y a un monde, et on est certainement que la crise des Gilets jaunes, il y a eu un très bon numéro de Libé qui s'interrogeait et qui reprenait un peu les chiffres que vous donnez, hein, puisqu'il disait que 20 000 des 35 000 cartes de presse sont détenues par des journalistes donc, qui vivent en région parisienne, ça correspond aux 60% dont vous parlez, et je crois que cette prise de conscience a commencé et qu'il va falloir maintenant lutter contre ces effets d'endogamie et contre ce côté un peu trop parisien de la presse française.
Ce formatage, parce que c'en est un, hein, il faut quand même reconnaître les choses quand elles sont réelles, c'est nouveau ou ça se renforce ? Je vais pas raconter ma vie, mais quand j'ai commencé, il y avait des profils plus variés. Il y avait pas mal d'anciens profs, par exemple Samuel Bourron. Est-ce que c'est de plus en plus prégnant ce formatage, cette endogamie ?
La profession de journaliste a longtemps été quand même composée par des personnes assez dominantes socialement. Il y avait voilà historiquement des hommes de lettres qui venaient en partie de l'aristocratie. Donc c'est quand même pas quelque chose de nouveau. Par contre, ce qu'il est, c'est que pour entrer dans la carrière de journaliste, eh bien vous devez de plus en plus passer par des écoles. Aujourd'hui, 64% des nouveaux titulaires de la carte de presse viennent d'une école.
Donc c'est une uniformité qui se renforce.
C'est ça. C'est un peu comme si vous deviez ouvrir des sas. Voilà, un effet entonnoir. Mais même au sein des écoles, c'est-à-dire que fin des années 60, vous aviez des écoles qui proposaient des modèles de journalisme hyper différents. L'IUT de Bordeaux, par exemple, qui avait un recrutement très populaire, avait une vision du journalisme qui proposait de pas déconnecter la forme du fond. C'est-à-dire que la technique n'existait pas en elle-même. C'est d'abord qu'est-ce qu'on veut dire et ensuite quelle technique on utilise pour faire passer le message. Et ce modèle de journalisme-là a un peu périclité parce que les écoles ont tendance à uniformiser leur programme d'enseignement, leur vision du journalisme.
Oui. Est-ce que l'une des solutions, on en parlait, Alexis Lévrier, c'est d'aller davantage sur le terrain. Et là, ça pose la question des moyens avec Exactement. La crise économique de la presse. Les gens n'achètent plus de journaux, on va le dire très clairement. Hein. Les kiosques ferment. Les gens ont pris l'habitude de consommer gratuitement la presse sur Internet. Est-ce que c'est le serpent qui se mord la queue ? Plus de moyens pour aller en reportage, donc déconnexion croissante.
Oui, parce que même sans venir de catégories populaires ou sans venir d'une région donnée, on peut parler de cette région et on peut parler des catégories populaires. Mais il faut aller sur le terrain, donc il faut avoir une rédaction qui vous en donne les moyens. Florence Obna a été une des premières pendant la crise des Gilets jaunes à faire une analyse extraordinaire et d'une
très
grande,
beau papier,
magnifique papier,
et un reportage superbe. Quoi.
Voilà, mais elle travaille pour Le Monde. Elle a cette, alors je pense qu'elle a le talent aussi pour ça, parce qu'elle entend qu'elle fait du journalisme de terrain en France, à l'écoute justement de ces catégories un peu invisibles de la population. Mais ce travail qu'elle fait, elle peut le faire aussi parce qu'il y a des moyens, les moyens du Monde derrière. Et on voit maintenant que même les grands quotidiens de province souffrent de la crise de la presse, alors que longtemps c'était la PQR et la PQD échappés à cette crise-là. Maintenant, ils sont frappés également. Donc, ils ferment des antennes, ils ont du mal à envoyer leurs journalistes. Et on a bien vu, dans le mouvement des Gilets jaunes, que le journaliste devient souvent une figure étrangère. C'est-à-dire qu'on n'a plus l'habitude de le côtoyer, de le fréquenter au coin de la rue. Et c'est aussi une des raisons. Alors, ça ne justifie pas les violences. Moi, je dois dire que je suis effaré par les violences qu'il y a eu contre la presse. Moi, qui suis périgourdin, j'en ai même vu à Sarlat, où on s'en est pris à des journalistes sur un rond-point. C'est des choses inimaginables dans le petit coin de paradis qui est le Périgord. Donc, on a vu ça partout, et où on s'en prend à des journalistes qui autrefois étaient des figures connues, des figures amies, mais avec la crise de la presse, ces figures sont de plus en plus distantes, elles n'ont souvent plus les moyens de venir jusqu'à leur lecteur.
Samuel Bourreau.
Et Florence Obna, c'est la personne la plus citée actuellement par les étudiants qui veulent entrer dans une école de journalisme. C'est encore le modèle du grand reporter, c'est encore ce qui fait rêver, mais en fait, ces étudiants, une fois qu'ils sortent des écoles, ils n'ont pas forcément les moyens matériels
ils
de
pas
faire...
La possibilité de faire ça.
C'est ouais. ça. Et que, ben voilà, quand vous êtes pigiste, encore une fois, vous allez être amené parfois à faire du journalisme assis, de prendre des informations de seconde main. Ça facilite pas, voilà, une diversité d'informations. Et il y a beaucoup de jeunes diplômés en journalisme qui me disent, j'ai le sentiment d'être surqualifié. En fait. Je parle trois langues. Je connais mes fondamentaux en géopolitique, en histoire, en économie. Mais en fait, concrètement, ce que je fais, c'est pisser de la copie. C'est
bâtonner de la dépêche.
Voilà,
c'est ça. Aux États-Unis, les médias, et parmi les plus importants, Alexis Desbrieux, ont été confrontés à cette défiance venue à la fois de la base, mais aussi du haut, de la Maison-Blanche. Comment est-ce qu'ils ont réagi? Est-ce que ça les a obligés à se poser des questions, comme on est en train de le faire ici en France?
Ah, je pense qu'il nous donne une leçon, et je pense que peut-être un modèle à suivre, parce que l'élection de Donald Trump s'explique par des raisons qui sont les mêmes que celles à l'origine du succès des Gilets jaunes, c'est-à-dire des catégories qui se sentent oubliées par les élites, et notamment par les élites médiatiques, et qui se révoltent contre cette caste-là. Alors ça a produit l'élection d'un populiste à la Maison-Blanche, et chez nous ça produit cette rébellion que sont les Gilets jaunes. Et la réponse qu'a apportée la presse, je trouve, ça a été montré notamment par un documentaire qui a été diffusé sur Arte, qui a montré comment la rédaction de New York Times répondait finalement aux défis lancés par Donald Trump. Et ils répondent pas par l'invective, pas par l'agressivité, mais par un travail de fond, un travail de terrain et un travail sur les faits. Et moi je pense que les journalistes s'en sortiront comme cela. Ça, dans le baromètre de la Croix, il y a un chiffre intéressant. C'est, alors, évidemment, ça traduit un discrédit et une méfiance grandissante à l'égard de la presse, mais quand on demande aux gens de qui ils attendent une lutte contre les fake news, ce qui apparaît en premier, ce sont des journalistes. C'est-à-dire que on a beau avoir cette défiance à l'égard de la presse, on attend quand même des journalistes qu'ils rétablissent la vérité des faits. Et je crois que le New York Times, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont travaillé sur les faits et ils ont lutté contre toutes les fake news que produisait et que produit chaque jour Donald Trump.
Parce que les gens qui sont dans cette attitude de défiance par rapport aux journalistes, ils le savent très bien, au fond, Samuel Bourreau, que... les infos ou les infox qui passent par les réseaux sociaux, c'est pas toujours très fiable. Ils sont en attente de ça, les gens, sur les ronds-points ou ailleurs, enfin, voilà, ou les étudiants journalistes que vous avez vus.
En tout cas, pour parler des personnes mobilisées dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, il y a clairement une attente aussi de mettre des mots sur un sentiment d'injustice sociale, d'une souffrance sociale, et une attente de comprendre comment le monde fonctionne, en fait. Et parfois, ils ne trouvent pas ça dans les médias mainstream, qui échouent éventuellement à remettre l'information dans un contexte social, politique, historique, qui permet de rendre les choses intelligibles. Et en fait, dans les fake news, ben parfois, même si c'est faux, vous avez une explication simple des choses.
Une explication simple, et puis surtout, peut-être une empathie avec la situation des gens. C'est ce qui manque aujourd'hui au journalisme, peut-être, Alexis Desbrieux.
Bien sûr qu'il faut avoir de l'empathie, de la compréhension, mais...
Comme dans ce papier de Florence Obna, par exemple.
Par exemple, mais sans sacrifier la vérité des faits, le monde montrait aujourd'hui que... sur les groupes Facebook des Gilets jaunes, un tiers des informations qui circulent sont fausses ou partiellement fausses. Et c'est aux journalistes de rétablir la vérité des faits. Ça n'est pas inconciliable avec l'empathie, la compréhension, mais il y a un travail à faire d'abord sur la vérité.
Merci Alexis Lévrier, merci également Samuel Bourron, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du Débat du Jour, Déborah Lepage à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Hélène Avril. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles. Vous pouvez participer au Débat du Jour sur les réseaux sociaux. Critiquez, prochain débat, demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.